Oui, sans doute. La société est un contrat. Ce que l'on passe dans le cours de la vie pour des intérêts particuliers ou pour des objets momentanés et que l'occasion fait naître, on peut les dissoudre à plaisir. Mais faudra-t-il considérer l'État sous les mêmes rapports qu'un traité pour un commerce de poivre ou de café, de calicot, de tabac ou pour tout autre objet d'un intérêt vulgaire qui n'a que la durée d'une spéculation momentanée et que les parties peuvent rompre à leur fantaisie? C'est avec un autre sentiment de respect que l'on doit envisager l'État, parce que ce genre d'association n'a pas pour objet ces choses qui ne servent qu'à l'existence animale et grossière d'une nature périssable et fugitive. C'est la société de toutes les sciences, la société de tous les arts, la société de toutes les vertus et de toutes les perfections. Et comme les gains d'une telle société ne peuvent s'obtenir sans plusieurs générations, cette société devient celle non seulement de ceux qui existent, mais elle est un contrat entre ceux qui vivent, entre ceux qui sont à naître et entre ceux qui sont morts. Chaque contrat, dans chaque état particulier, n'est qu'une clause dans le grand contrat primitif d'une société éternelle qui compose une seule chaîne de tous les anneaux de différentes natures, qui met en relation le monde visible avec le monde invisible, conformément à un pacte fixé sanctionné par le serment inviolable qui maintient toutes les natures physiques et morales, chacune dans la place qui lui a été assignée. Cette loi n'est pas soumise à la volonté de ceux qui, par une obligation qui est au-dessus d'eux et qui leur est infiniment supérieure, sont forcés eux-mêmes d'y soumettre leur volonté. Les corporations municipales de ce royaume universel n'ont ni la liberté ni le loisir, en se livrant aux aperçus d'une amélioration fortuite, de séparer et de rompre le lien de subordination de chaque communauté qui leur est subordonnée et de la réduire en un chaos antisocial, anticivil et confus de principes élémentaires. Il n'y a que la nécessité par essence, une nécessité qui n'est pas choisie, mais qui commande, une nécessité qui l'emporte sur toutes les délibérations, une nécessité qui n'admet ni discussion ni preuve. Il n'y a qu'une telle nécessité, dis-je, qui puisse justifier le recours à l'anarchie. Une nécessité de cet ordre n'est pas une exception à la règle, parce qu'elle est elle-même aussi une partie de cette disposition morale et physique des choses à laquelle l'homme doit obéir de gré ou de force. Mais si ce qui ne peut être que l'effet de la soumission à une telle nécessité devenait un objet de choix, la loi générale serait rompue. On désobéirait à la nature, et les rebelles seraient aussitôt proscrits, dispersés. Ils seraient exilés de ce monde de raison, de vertu, de paix et d'indulgence, dans un monde opposé de folie, de discorde, de vice, de confusion et de regrets inutiles. Ces sentiments, mon cher monsieur, sont, ont été et seront longtemps, je pense, ceux des hommes qui ne sont pas les moins instruits ni les moins réfléchis de ce royaume. Ceux qui sont compris dans cette classe forment leurs opinions d'après les mêmes bases que de telles personnes doivent les former. Ceux qui examinent moins et que la Providence condamne à s'en rapporter à la foi d'autrui, les reçoivent d'une autorité dont ils ne doivent pas rougir. Ces deux classes d'hommes agissent dans la même direction, quoique dans des positions différentes. Toutes deux se conduisent conformément à l'ordre de l'univers. Elles connaissent ou elles sentent toute cette grande et ancienne vérité. Quod illi principi et prepotenti Deo, qui omnem hunc mundum regit, nihil eorum quae quidem fiant interis, acceptius quam concilia et cetus hominum iure sociati, quae civitates appellantur. Car pour ce Dieu suprême qui régit tout l'univers, il n'est rien de plus acceptable que ces assemblées et ces sociétés humaines disciplinées, appelées États. Cicéron, De Republica. Elles conservent ce dogme dans leur mémoire et dans leur cœur, non pas à cause du grand nom de son auteur, ni de l'autorité plus grande d'où il dérive, mais à cause de ce qui peut seul donner à une opinion savante son véritable poids et sa sanction, la simple nature et les simples relations communes à tous les hommes. Persuadé que tout doit être fait dans une vue et reportant tout au point vers lequel tout doit être dirigé, ils se croient liés non seulement comme individus au fond de l'âme, ou comme des êtres réunis dans cet emploi personnel, de renouveler la mémoire de leur haute origine et de leur caste, mais encore en leur caractère de corps politique, d'offrir leur hommage national à l'instituteur, à l'auteur, au protecteur de la société civile. Société civile sans laquelle l'homme serait non seulement privé de la possibilité d'arriver à la perfection dont sa nature est susceptible, mais même de s'en approcher en aucune manière. Ils conçoivent que celui qui a voulu que notre nature fût douée de l'attribut de pouvoir se perfectionner par sa propre vertu, créa en même temps les moyens nécessaires qui peuvent la conduire à cette perfection. Il voulut donc l'État, il voulut sa liaison avec la source et le premier modèle de toute perfection. Ceux qui sont bien convaincus que telle est la volonté suprême de celui qui est la loi des lois et le souverain des souverains, ne peuvent pas désapprouver que lorsque nous prêtons encore notre serment de foi et hommage, que lorsque nous reconnaissons cette suzeraineté dominante, j'allais presque dire lorsque nous offrons l'État lui-même en oblation, comme une digne offrande, sur le grand autel des hommages universels, nous devions y procéder avec toute la solennité publique qui convient aux actes solennels et religieux, par des édifices, par des chants mélodieux, par la pompe extérieure, par des discours, par la dignité des personnes, suivant les usages du genre humain, d'après leur nature, c'est-à-dire avec une modeste splendeur, avec une juste déférence, avec une majesté douce et un éclat modéré. Pour remplir ses fins, il pense qu'une partie de la richesse de la nation est employée, aussi bien qu'elle peut l'être, à encourager ce luxe que son objet sanctifie. Il est l'ornement public, il est la consolation publique, il nourrit l'espérance publique. L'homme le plus pauvre y trouve son importance et sa dignité, tandis que la richesse et l'orgueil des individus font sentir à chaque moment à l'homme d'un rang et d'une fortune médiocre son infériorité, dégrade et avilisse sa condition. C'est en faveur de l'homme qui vit dans l'obscurité, c'est pour élever sa nature et pour lui rappeler à l'esprit une situation dans laquelle les privilèges de l'opulence cesseront lorsqu'il sera égal par la nature et pourra être plus qu'égal par la vertu, que cette portion de la richesse de sa patrie est employée et sanctifiée. Je vous assure que je ne vise pas à la singularité. Je vous communique des opinions qui ont été reçues parmi nous depuis longtemps et jusqu'à ce moment avec une approbation générale et soutenue et qui sont tellement imprégnées dans mon esprit que je ne saurais distinguer ce que j'ai appris des autres de ce qui est le résultat de mes propres méditations. C'est d'après de tels principes que la majorité du peuple en Angleterre, loin de regarder comme illégal un établissement religieux national, croit au contraire que légalement on ne peut s'en passer. Vous êtes tout à fait dans l'erreur en France si vous ne pensez pas que nous y soyons attachés par-dessus tout, et même plus qu'aucune autre nation. Quoique ce peuple ait agi inconsidérément à cet égard, et d'une manière qu'on ne peut justifier, ce qu'il a certainement fait en quelques occasions, vous reconnaîtrez du moins son zèle jusque dans ses erreurs mêmes. Ce principe se représente dans toutes les parties du système de notre politique. Le peuple anglais ne regarde pas l'établissement de son Église comme une chose seulement convenable, mais comme essentielle à l'État, non comme une chose hétérogène et séparable, non pas comme quelque chose d'ajouté pour un simple arrangement, comme quelque chose qu'il puisse prendre ou laisser, suivant que cela convient aux idées du moment. Il regarde son établissement religieux comme le fondement de toute sa constitution, avec laquelle et avec chaque partie de laquelle il veut maintenir une union indissoluble. L'Église et l'État sont des idées inséparables dans son esprit, et il y a bien peu d'exemples où l'on fasse mention de l'un sans faire mention de l'autre. Notre éducation est dirigée de manière à fixer cette impression. Notre éducation est en quelque sorte tout entière confiée aux ecclésiastiques et dans toutes ces périodes, depuis l'enfance jusqu'à l'âge viril. Lors même que notre jeunesse, au sortir des écoles et des universités, entre dans cette période si importante de la vie qui commence à joindre l'expérience à l'étude, et lorsque, pour mieux y réussir, elle va voyager dans les pays étrangers, au lieu de la faire accompagner par de vieux domestiques, comme nous en avons vu donner pour gouverneurs à des hommes de marque qui nous arrivaient des autres pays, presque toujours leurs guides sont des ecclésiastiques. non pas en qualité de maîtres austères ou de simples suivants, mais comme des amis et des compagnons d'un caractère plus grave et très souvent aussi bien nés que leurs pupilles. Ainsi que des parents, ils entretiennent avec elles des liaisons étroites pendant toute leur vie. Par ces liaisons, nous pensons attacher notre jeunesse à notre Église, et nous donnons de la considération à nos ecclésiastiques en les mettant en relation avec ceux qui sont appelés à prendre part au gouvernement de leur patrie. Nous tenons tellement à nos vieilles institutions ecclésiastiques qu'on y a fait très peu d'altérations depuis le XIVe ou le XVe siècle, suivant en cela, comme dans les autres choses, notre maxime si anciennement établie de ne jamais nous écarter de l'Antiquité entièrement ni tout à la fois. Nous avons trouvé que ces vieilles institutions étaient, dans leur ensemble, favorables à la morale et à la discipline, et nous avons pensé qu'elles étaient susceptibles d'amélioration sans qu'il fût nécessaire d'en altérer le fond. Nous avons pensé qu'elles étaient capables de recevoir, d'améliorer et par-dessus tout de conserver toutes les acquisitions de la science et de la littérature, à mesure et dans le même ordre où elles sont successivement produites par la Providence. Et après tout, avec cette gothique et monacale éducation, car au fond elle n'est pas autre chose, nous pouvons avouer les prétentions que nous avons à une part aussi considérable et aussi ancienne qu'aucune autre nation de l'Europe dans les progrès des sciences, des arts et de la littérature qui ont éclairé et orné le monde moderne. Nous pensons qu'une cause principale de ce grand avancement est que nous n'avons pas dédaigné le patrimoine de connaissances qui nous a été transmis par nos ancêtres. C'est par suite de notre attachement à l'établissement de notre Église que la nation n'a pas cru qu'il fût sage de faire à l'égard du tout, de ce grand intérêt fondamental, ce qu'elle ne ferait pas à l'égard d'une partie séparée, soit militaire, soit civile. C'est-à-dire de n'en assurer le service public que sur le produit incertain et précaire de la contribution des individus. Elle va plus loin. Certainement, elle n'aurait jamais souffert, et elle ne souffrira jamais, que la dotation fixe de l'Église soit convertie en pension, qu'elle dépende de la trésorerie, qu'elle soit soumise à des délais, à des longueurs, ou peut-être anéantie par des difficultés fiscales, difficultés qui pourraient quelquefois être suscitées dans des vues politiques, et qui, dans le fait, naissent souvent de l'extravagance, de la négligence et de la rapacité des politiques. Le peuple d'Angleterre pense qu'il a des motifs constitutionnels autant que religieux pour s'opposer à tout projet qui transformerait son clergé indépendant en ecclésiastique pensionnaire de l'État. L'influence d'un clergé qui serait dans la dépendance de la couronne le ferait trembler pour sa liberté. Et s'il devait dépendre d'autre chose que de la couronne, il tremblerait pour la tranquillité publique, parce qu'alors il aurait à craindre les dangers d'un clergé factieux. C'est pourquoi il a voulu que son Église fût aussi indépendante que son roi et sa noblesse. Par suite de cette réunion de la religion et de la politique constitutionnelle, de cette nécessité de procurer d'amples consolations aux faibles et des lumières à l'ignorant, la nation a incorporé et identifié la richesse de l'Église avec la masse des propriétés particulières dont l'État n'est point le propriétaire, soit pour en jouir ou en disposer, mais dont il est seulement le gardien et le régulateur. Elle a ordonné que les revenus de son Église fussent aussi stables que la terre sur laquelle elle repose et qu'ils ne fussent pas dans une fluctuation inconstante, semblable à l'ERIP, des fonds publics et des actions. Les hommes en Angleterre, je veux dire les hommes éclairés et faits pour diriger les autres, dont la sagesse, si vous leur en accordez, est franche et droite, serait honteux, comme d'une stupide fourberie, de professer en parole une religion que par leur conduite ils paraîtraient mépriser. Si par leurs actions, le seul langage qui se trompe rarement, ils semblaient envisager ce grand principe qui dirige le monde moral et le monde naturel comme une pure invention destinée à tenir en respect le vulgaire, ils craindraient par une telle conduite d'aller contre le but politique qu'ils auraient en vue. Ils trouveraient de grandes difficultés à faire croire les autres à un système auquel ils n'accorderaient eux-mêmes manifestement aucune confiance. Les chrétiens hommes d'État de ce pays voudraient avant tout pourvoir à ce qui intéresse la multitude. Ils le voudraient par cela seul qu'est la multitude, et qu'en cette qualité, elle est le premier objet des institutions ecclésiastiques, comme aussi le premier de toutes les institutions. Ils ont appris dès longtemps qu'une des circonstances qui prouve le plus en faveur de la vérité de la mission évangélique était que sa parole fut prêchée aux pauvres. Ils pensent donc que ceux-là n'y croient pas, qu'ils ne s'occupent pas du soin de la leur faire prêcher. Mais comme ils savent que la charité ne se restreint pas dans ses œuvres à une seule classe d'hommes, et qu'elle doit aller au secours de tous ceux qui en ont besoin, les grands dans le malheur et dans la détresse ne sont pas moins à leurs yeux l'objet d'une compassion inquiète et légitime. Sans être arrêtés par leur arrogance et leur présomption, ces médecins de l'âme surmontent la répugnance et l'aversion qu'elles inspirent, et leur prodiguant des soins salutaires, combattent avec les remèdes convenables les maladies de leur âme. Il leur est démontré que les instructions religieuses sont pour eux d'une conséquence plus grande que pour tout autre, d'après le danger des tentations qui les environnent, d'après les conséquences importantes attachées à leurs fautes, d'après la contagion des mauvais exemples donnés par eux, d'après la nécessité de courber leur opiniâtreté, leur orgueil et leur ambition sous le joug de la modération et de la vertu, d'après la considération de la stupidité pleine de suffisance et de l'ignorance grossière sur tout ce qu'il importe le plus aux hommes de connaître, qui domine dans les cours, à la tête des armées et dans les sénats, autant que dans les ateliers et dans les champs. Le peuple, en Angleterre, voit avec satisfaction que les grands ont aussi besoin des instructions et des consolations de la religion. Eux aussi, ils sont au nombre des malheureux. Ils éprouvent des peines personnelles et des chagrins domestiques. Ils n'ont point de privilèges, et ils fournissent leur part entière dans les contributions imposées à tout le genre humain. Ils ont besoin de ce baume salutaire dans leurs soucis dévorants et dans leurs anxiétés, qui, ayant moins de rapport avec les besoins limités de la vie animale, sont illimités dans leurs atteintes et se multiplient sous des combinaisons infinies dans les régions effrayantes et sans bornes de l'imagination. Ils ont besoin, ces êtres souvent bien malheureux, d'une part de la charité pour remplir le vide indéfinissable qui règne dans des cœurs qui n'ont rien à espérer ni rien à craindre sur la terre, de quelque chose qui ranime la langueur mortelle et la lassitude accablante de ceux qui n'ont rien à faire, de quelque chose qui puisse donner un attrait à l'existence lorsqu'une satiété insipide accompagne tous les plaisirs que l'on peut acheter. Lorsque les impulsions de la nature sont étouffées, lorsque le désir même est prévenu et que la jouissance est détruite par des projets et des plans de plaisir médités d'avance, lorsqu'enfin chaque désir est satisfait aussitôt que formé. Le peuple d'Angleterre connaît combien, selon toute apparence, serait faible l'influence des ministres de la religion vis-à-vis des hommes qui auraient hérité d'une opulence et d'une considération fort ancienne, combien moindre elle serait encore vis-à-vis des nouveaux parvenus s'ils se présentaient d'une manière qui ne fût nullement assortie à celle des personnes avec qui ils doivent s'associer et même sur lesquelles ils doivent, en quelques circonstances, exercer une sorte d'autorité. Quelle idée de telle personne aurait-elle de ce corps d'instituteur si elle voyait qu'il ne fût guère placé au-dessus de l'état des domestiques? Si la pauvreté était volontaire, ce serait une grande différence. De fortes preuves de l'oubli de soi-même opèrent puissamment sur nos esprits. Et un homme qui est au-dessus des besoins acquiert par là une grande liberté, une grande fermeté et même une grande dignité. Mais, comme l'ensemble de chaque classe, quelle qu'elle soit, n'est composé que d'hommes, et que leur pauvreté ne peut pas être volontaire, ce défaut de considération qui est attaché à la pauvreté laïque sera aussi sans distinction le partage de la pauvreté ecclésiastique. C'est pourquoi notre prévoyante constitution a pourvu avec grand soin à ce que ceux qui sont chargés d'instruire la présomptueuse ignorance, à ce que ceux qui doivent exercer leur censure sur le vice insolent ne fussent jamais exposés à encourir leur dédain ou à ne vivre que de leurs aumônes, et à ce que les riches n'eussent aucun prétexte pour négliger cette véritable médecine de leurs âmes. D'après ces raisons, en même temps que nous nous occupons d'abord et avec une sollicitude paternelle de la consolation du pauvre, nous n'avons pas relégué la religion comme quelque chose que l'on aurait honte de montrer dans d'obscures communes ou dans de pauvres villages. Non, nous voulons la voir élever à la cour et au parlement son front mitré. Nous voulons rencontrer son alliance à chaque pas dans le cours de la vie. Nous voulons qu'elle s'unisse à toutes les classes de la société. La nation anglaise montrera à tous les fiers potentats de ce monde et à leurs verbeux sophistes qu'une nation libre, généreuse et savante honore les premiers magistrats de son Église, qu'elle ne permettra jamais à l'insolence des richesses et des titres ou à celle de toute autre espèce de prétention de regarder avec mépris ce que nous considérons avec vénération. D'être assez audacieuse pour fouler aux pieds cette noblesse personnelle acquise, qui, selon eux, devrait être toujours, mais qui souvent est le fruit et non pas la récompense, car quelle chose pourrait l'être, du savoir, de la piété et de la vertu. Parmi nous, on voit sans peine et sans envie un archevêque avoir le pas sur un duc, un évêque de Durham ou un évêque de Winchester jouir de 10 000 livres sterling par an, et l'on ne conçoit pas pourquoi l'on trouverait que cette somme serait plus déplacée dans leurs mains que ne le serait dans celle d'un comte ou d'un gentilhomme le produit d'une fortune semblable. Quoiqu'il puisse être vrai que le premier n'aurait pas autant de chevaux et de chiens et ne les entretiendrait pas avec l'argent destiné aux enfants du peuple. Il faut convenir que tout le revenu de l'Église n'est pas toujours employé avec une scrupuleuse exactitude à répandre des charités, et peut-être n'est-ce pas absolument nécessaire, mais une partie du moins reçoit cette destination. Il vaut mieux, au risque même de ne pas remplir en entier son objet, laisser à la volonté sa liberté tout entière, que de travailler à réduire les hommes à n'être que de pures machines et les instruments d'une bienfaisance politique. On en chérira davantage la vertu et l'humanité. Le monde y gagnera de toute manière, parce que sans la liberté, il ne peut point exister de vertu. Dès qu'une fois la nation a établi que les biens de l'Église sont une propriété, on ne peut pas, sans inconséquence, se permettre d'entrer en examen sur la quantité plus ou moins grande de ces biens. C'est trahir la propriété que de prononcer ainsi sur son étendue. Quel mal peut-il résulter de la quantité des propriétés dans de certaines mains quand l'autorité suprême a une inspection pleine et souveraine sur les unes et sur les autres, pour empêcher toute espèce d'abus et pour les faire rentrer dans la ligne de leur destination toutes les fois que l'on paraît trop s'écarter dans ses dépenses du but de leur institution. Beaucoup de personnes en Angleterre conçoivent que c'est par l'envie et la malignité qui existent à l'égard de ceux qui sont souvent les auteurs de leur propre fortune, et non pas par l'amour de la mortification et de cet oubli de soi-même, que quelques personnes regardent avec un œil jaloux ces distinctions, ces honneurs et ces revenus qui, sans faire tort à personne, sont réservés et destinés pour la vertu. L'oreille, dans ce pays-ci, a du discernement. On reconnaît ces âmes à leur ton. Leur langage les trahit. C'est un patois de fraude, un accent et un jargon d'hypocrisie. Pourrait-on penser autrement quand on voit ces parleurs affectés de reporter l'état du clergé à cette pauvreté évangélique du premier âge, qui dans leur esprit devrait toujours exister, et dans la nôtre aussi, quelque peu que cela nous plût, mais qui dans la réalité doit éprouver un très grand changement, puisque les rapports sont totalement changés entre ce corps et celui de l'État, puisque les mœurs, puisque la manière de vivre, puisqu'enfin tout l'ensemble des choses de ce monde a subi une révolution totale. Nous regarderons alors ces messieurs comme d'aussi honnêtes enthousiastes que nous les croyons aujourd'hui de bons fourbes et de bons trompeurs lorsque nous les verrons remettre en communauté leur propre fortune et soumettre leur personne à cette discipline austère de la primitive Église. Toutes ces idées étant bien enracinées dans nos esprits, vous ne verrez jamais les communes de la Grande-Bretagne, dans aucune occasion d'un besoin national, adopter pour ressource la confiscation des biens de l'Église et des pauvres. Le sacrilège et la proscription ne sont pas au nombre des ressources que l'on emploie dans notre comité des finances. Les Juifs de notre allée du change n'ont pas encore osé envisager, comme une hypothèque à espérer, les revenus du siège de Canterbury. Je ne crains pas d'être désavoué lorsque je vous assure qu'il n'y a pas un homme public dans ce royaume, je veux dire un de ceux que l'on peut citer sans rougir, dans quelque parti ou dans quelque classe que ce soit, qui ne désapprouve et ne réprouve comme malhonnête, perfide et cruelle cette confiscation ordonnée par l'Assemblée nationale d'une propriété que son premier devoir était de protéger. Il me sera bien permis d'avoir un peu d'orgueil en vous apprenant que ceux qui, parmi nous, ont souhaité de boire à la coupe des abominations de vos sociétés de Paris ont été bien trompés dans leur vue. Le pillage de votre église a redoublé la sécurité de la nôtre pour ses possessions. Il a réveillé le peuple, il ne voit qu'avec horreur et alarme cet acte monstrueux et honteux de proscription. Il a ouvert et il ouvrira de plus en plus les yeux sur le véritable intérêt personnel, déguisé sous la pompe de cet agrandissement d'esprit et de cette libéralité de sentiment que professent ces hommes insidieux, qui passent avec impudence de l'hypocrisie et de la fraude à tout l'éclat de la violence et du pillage. Nous apercevons ici quelques commencements de ce genre, mais nous sommes sur nos gardes contre les mêmes résultats. J'espère que nous ne serons jamais assez dénués du sentiment de devoir qui nous sont imposés par la loi de l'union sociale pour confisquer, sous aucun prétexte d'intérêt public, la fortune d'un seul citoyen paisible. Quel autre, si ce n'est un tyran, nom qui exprime tout ce qui peut corrompre et dégrader la nature humaine, pourrait avoir la pensée de s'emparer de la propriété des hommes, sans accusation préalable, sans les entendre, sans les juger, et cela par centaines, par milliers, par classes entières. Ne faut-il pas avoir perdu toute trace d'humanité pour entreprendre de précipiter dans l'humiliation des hommes élevés par leur rang et par le ministère sacré de leurs fonctions, dont le grand âge de plusieurs implorait seul tout à la fois la vénération et la compassion, de les précipiter ainsi de la plus haute élévation connue dans l'État, dans laquelle ils étaient maintenus par leur propriété foncière personnelle, dans un état d'indigence, d'abaissement et de mépris. Il est vrai que ces grands confiscateurs ont permis à leurs victimes de conserver quelques espérances sur les miettes et sur les débris de leur propre table, dont ils les ont chassés avec tant de cruauté pour donner un festin aux harpies de l'usure. Mais arracher les âmes à leur indépendance pour les réduire à ne vivre que de charité, c'est en soi-même une grande cruauté. Ce qui pourrait être une condition supportable pour une certaine classe d'hommes qui ne seraient pas accoutumés à autre chose, devient une révolution affreuse pour ceux qui ne sont pas à beaucoup près dans le même cas, et une révolution telle qu'à moins d'une offense qui mériterait la mort, ce genre de peine exciterait une vive commisération dans une âme vertueuse qui aurait à la prononcer contre un coupable. La dégradation et l'infamie sont pour bien des cœurs plus insupportables que la mort. N'est-ce pas, en vérité, aggraver cette souffrance cruelle pour des hommes qui ont, en faveur de la religion, le double préjugé de leur éducation et des fonctions qu'ils administraient dans son ministère, de ne plus recevoir les débris de leur propriété qu'à titre d'aumône, et encore de ces mêmes mains impies et profanes qui les ont dépouillés de la totalité, de les recevoir non pas par les contributions charitables des fidèles, mais d'attendre de l'insolente pitié d'un athéisme connu et avoué les frais du culte calculés et proportionnés sur l'échelle du mépris dans lequel il est relégué, dans l'intention trop évidente de rendre ceux qui les reçoivent tout aussi vils et tout aussi méprisables aux yeux du genre humain. Cet envahissement des propriétés, à ce que prétendent ces messieurs, est un jugement légal et non pas une confiscation. Il paraît qu'on a découvert, dans les clubs du Palais-Royal et des Jacobins, que certains hommes n'ont point de droit à ce qu'ils possèdent sous l'empire de la loi, de l'usage, des jugements des tribunaux et de la prescription accumulée d'un millier d'années. Ces messieurs disent que les ecclésiastiques sont des personnes fictives, des créatures de l'État, qu'ils peuvent les détruire à plaisir et d'eux-mêmes, et les modifier en tout point, que les biens qu'ils possèdent ne sont pas proprement les leurs, mais qu'ils appartiennent à l'État qui a créé la fiction, et que, par conséquent, nous ne devons pas nous inquiéter de ce qu'ils peuvent souffrir dans leurs sentiments et dans leurs personnes, à l'occasion de ce qui ne frappe que sur leur caractère altérable. Qu'importe sous quel nom vous injuriez et vous dépouilliez des justes émoluments de leur profession des hommes qui s'y étaient engagés, non seulement par une simple permission, mais par un encouragement de l'État, et qui, d'après la certitude qu'il supposait à ces émoluments, avait contracté des dettes et avait conduit une quantité de personnes à dépendre entièrement d'eux. Vous n'imaginerez pas, monsieur, que je me dispose à honorer d'une longue discussion cette misérable distinction des personnes. Les arguments de la tyrannie sont aussi méprisables que sa force est effrayante. Si vos confiscateurs ne s'étaient pas emparés d'avance, par leurs crimes, de la totalité du pouvoir qui depuis leur a assuré l'impunité pour tout ce qu'ils ont commis et qu'ils pourront commettre, ce n'aurait pas été au syllogisme du logicien qu'il aurait appartenu de répondre à leur sophisme complice de vol et de meurtre, mais à la verge du bourreau. Les sophistes tyrans de Paris déclament bien haut contre les rois qui, dans les siècles précédents, ont tourmenté le monde. Ils ne sont si fiers que parce qu'ils sont à l'abri des donjons et des cages de fer de leurs anciens maîtres. Ferons-nous plus de grâce aux tyrans du moment quand nous les voyons représenter sous nos yeux des tragédies plus affreuses? Ne prendrons-nous pas la même liberté qu'eux, nous qui pouvons le faire avec la même sûreté, lorsque, pour exprimer toute la vérité, nous n'avons qu'à mépriser les opinions de ceux dont nous abhorrons les actions? Si on considère attentivement le système bien suivi et adopté par l'Assemblée, rien ne doit paraître plus étonnant que le prétexte sous lequel on a masqué d'abord cet outrage à tous les droits de la propriété, l'intérêt de la foi nationale. Les ennemis de la propriété affectaient d'abord l'anxiété la plus scrupuleuse, la plus délicate et la plus sensible à tenir les engagements du roi avec les créanciers publics. Ces professeurs des droits de l'homme sont si occupés à instruire les autres qu'ils n'ont pas le loisir de rien apprendre eux-mêmes. Autrement, ils auraient su que c'est à la propriété des citoyens, et non pas à la réclamation des créanciers de l'État, que la foi première et originaire de la société civile est engagée. Le droit du citoyen a la priorité du temps, la primauté du titre et la supériorité en équité. Les fortunes des individus, soit qu'elles fussent possédées à titre d'acquisition, à titre d'héritage ou en vertu d'un droit partiel dans des biens appartenant à quelques communautés, ne faisaient partie ni explicitement ni implicitement du cautionnement donné aux créanciers de l'État. Ceux-ci étaient loin d'en avoir l'idée lorsqu'ils firent leur traité. Ils savaient très bien que le public, soit qu'il soit représenté par un monarque ou par un sénat, ne peut hypothéquer que le revenu public, et qu'il n'existe de revenu public que par la levée d'une imposition juste et proportionnelle répartie sur la masse des citoyens. Cela seul était le gage, et rien autre chose ne pouvait être engagé aux créanciers publics. Nul ne peut hypothéquer son injustice comme un gage de sa fidélité.